Les femmes au fil de l'histoire.
Une coproduction Marche mondiale des femmes et Radio BLV.
Aujourd'hui, nous allons présenter un moment unique, bref dans l'histoire des femmes, mais fondateur sur plusieurs points. Nous allons découvrir des femmes mobilisées, au premier rang des débats ou des affrontements. Nous allons découvrir des femmes qui ont payé de leur vie leur choix de vie. La période envisagée ici est celle qui va de la prise de la Bastille à l'époque napoléonienne, c'est-à-dire entre 1789 et 1804. Nous allons voir ce que voulaient les femmes, ce qu'elles ont obtenu, ce qu'elles ont perdu.
Alors, que voulaient les femmes pendant la Révolution ?
Elles voulaient tout. Manger, agir, se faire entendre, avoir des droits, défendre la patrie.
On fait souvent référence à la marche des femmes sur Versailles, le 5 octobre 1789, comme celui de l'entrée en scène des femmes du peuple. Ramener le boulanger, la boulangère et le petit mitron dans les murs de Paris pour être sûr d'être ravitaillé. Cette marche audacieuse aurait été lancée par une fruitière, Louise Reine Audu, la reine des Halles. Les femmes de toutes conditions occupent l'espace public comme jamais elles n'avaient pu le faire auparavant. Les femmes ont été au cœur de tous les moments insurrectionnels. D'abord comme pétitionnaires. C'est un nouveau moyen d'expression utilisé auprès des assemblées pour réclamer des droits. Et ce droit est largement utilisé par les femmes, même si leurs pétitions sont rejetées, bien sûr. On les trouve aussi comme militantes dans des sociétés, des clubs exclusivement féminins. Le premier club féminin a été fondé en 1791, car les autres clubs les plus célèbres, le club des Jacobins, le club des Cordeliers, refusent la mixité. En province, quelques clubs acceptent les femmes, mais limitent leur participation par des conditions d'âge, des modalités d'accès aux décisions. Par exemple, les motions doivent être présentées par des hommes. Quant au vote des femmes, il n'est compté qu'en un seul bloc, pour une voix.
Quoi ? Ce n'est pas une voix, un homme ?
Ah non, justement, ça n'est valable que pour les hommes, pas pour les femmes.
Oh là là !
Les femmes sont dans les tribunes des assemblées. Ce sont les tricoteuses qui suivent les débats, qui peuvent quelquefois les interrompre. Bon, elles apportent surtout un ouvrage pour tenir le coup pendant des heures et des heures. Elles participent aux avant-postes des combats idéologiques. Il y a eu, par exemple, un club des citoyennes républicaines révolutionnaires, fondé le 10 mai 1793 par Pauline Léon et Claire Lacombe. Dans ce club, on débat de toutes les questions, la démocratie, la République, la patrie. Parmi ces femmes, l'une d'entre elles, Anne-Félicité Lacombe, tient l'imprimerie qui a édité « L'ami du peuple de Marat », le célèbre journal de l'époque. Elles sont aussi de tous les excès. On les appelle alors les furies de la guillotine.
Mais elles veulent défendre la patrie, voilà tout.
Bien sûr. Et le droit de s'armer et de combattre pour se défendre est porté par de très nombreuses femmes. Pauline Léon, dont on a déjà parlé, qui a participé d'ailleurs à la prise de la Bastille. On sait qu'elle a vécu entre 1768 et 1838. Elle a voulu former donc un groupe de femmes combattantes. Mais la plus célèbre est Théroigne de Méricourt. Elle, c'était une légion d'Amazones qu'elle voulait fonder. En 1792, elle lance un appel aux armes qui réclame le droit de former une garde nationale. Son appel aux armes est retoqué par l'Assemblée, car les parlementaires, les législateurs jugent impensable d'intervertir l'ordre de la nature.
Mais ont-elles obtenu des droits en fin de compte ?
Eh bien, souvenez-vous qu'au cours des décennies précédentes, les droits qui sont dits naturels ont été retournés contre les femmes. La science naissante s'est évertuée en plus à prouver que la nature de la femme est inférieure à celle de l'homme. Donc, quand on observe les droits civils, qui sont les droits attachés à la personne, Il y en a quelques-uns qui ont été obtenus en 1792. Par exemple, l'abolition du droit d'aînesse dans l'héritage qui bénéficie aux fils aînés apporte désormais aux héritiers la même égalité. Vous avez aussi le divorce.
Il faut dire que ces droits civils, ils ont été obtenus par toutes et tous, par défaut, car les hommes y trouvent leur compte.
Bien sûr. Quant aux droits civiques, ce sont ceux qui sont, entre autres, incarnés par des droits politiques et parmi les droits politiques, le droit de vote. On sait que dans les grands principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen figure le principe d'égalité. Mais cette égalité est interprétée selon les préjugés de l'époque. Ainsi, les législateurs ont fixé des droits politiques d'après des seuils fiscaux. Au sommet donc, il y a des citoyens actifs. Ce sont des hommes libres ayant un certain niveau de richesse. Les autres sont dits citoyens passifs. Ce sont les femmes, les personnes en état d'accusation, les faillis, les insolvables, les domestiques. Or, les femmes propriétaires auraient dû être citoyennes actives et non passives puisqu'elles payaient des impôts.
L'éviction des femmes des droits civiques a cependant été l'objet de controverses, je crois, et de débats animés. Condorcet a dénoncé leur exclusion lors d'un article en juillet 1790. Il a donc dénoncé leur exclusion considérant qu'elles pouvaient être, comme les hommes, éligibles et élisables. Germaine de Staël, écrivaine et philosophe, dénonce la position de Rousseau, qui, se référant à la nature des femmes, leur interdit de faire de la politique.
Merci Condorcet. Je dis ça car c'est un des rares hommes qui a soutenu le combat des femmes.
Venons-en à Olympe de Gouges, connue pour sa déclaration des droits de la femme. C'est une écrivaine, autrice de théâtre, de pièces à succès à partir de 1785. Elle est adepte des réformes. Elle s'engage dans la défense de tous les opprimés, femmes aussi bien qu'hommes. Elle fréquente, sans en être membre, parce que c'est une femme, la Société des Amis des Noirs. Elle a même écrit une pièce sur l'esclavage des Noirs, retirée sous pression du lobby esclavagiste. Mais, selon ses adversaires, elle est du mauvais côté de la barrière. Ils la feront condamner. Elle a en effet dédié sa déclaration des droits de la femme à la reine Marie-Antoinette. Et Olympe de Gouges ne passera jamais du côté de la République ni de la démocratie.
C'est peut-être une des raisons de sa non-panthéonisation. On peut se poser la question.
Je ne sais pas, mais il y a matière à discuter.
Bon, passons à la promulgation de la Constitution de l'an 1, le 24 juin 1793, qui correspond à la fin des espoirs des femmes d'obtenir des droits civiques. Cette constitution de la Première République instaure le suffrage universel, je le rappelle, réservé aux hommes libres. Cette situation provoque des divisions irréversibles entre les différentes tendances des groupes révolutionnaires de femmes. Désormais, elles s'affrontent entre elles, elles s'affaiblissent donc. Et tous les prétextes deviennent bons pour les écarter de la vie publique. On les accuse d'être des fauteuses de désordre, de manquer d'éducation. On les soupçonne de trahison et surtout d'abandonner leurs enfants. Au procès d'Olympe de Gouges, le 17 novembre 1793, on relève parmi les arguments du procureur l'accusation de femme-homme.
Et quant à Marie-Antoinette, l'accusation de mère incestueuse, ça a quand même été un moyen pratique de la discréditer à tout jamais.
Tout ceci nous fait froid dans le dos. Alors, reste-t-il quand même un espoir ?
Oui, on ne s'attend pas qu'à notre débat, tout aussi important que les droits civiques, préoccupe les législateurs. Il s'agit de l'éducation des filles. Le débat renvoie bien sûr à la pensée de Rousseau. Son traité d'éducation, Émile ou de l'éducation, publié en 1762, porte sur l'art de former les hommes. Titre qui en dit quand même beaucoup.
Là, je ne remercierai pas Monsieur Jean-Jacques Rousseau.
Tu as tout à fait raison, Françoise. Cependant, les législateurs font de l'éducation des filles un problème politique central. Le 19 décembre 1793, le principe d'une école publique de filles est posé. Les lois suivantes définissent les cadres. Un enseignement primaire est organisé dans tous les départements. Il est même prévu de former des institutrices.
Mais c'est un miracle!
Alors, ne nous méprenons point, hein, parce qu'on reste quand même dans les limites des préjugés de l'époque. Rousseau a dit « Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. »
Ben voyons!
Cette scolarisation à venir des filles se justifie dans la logique du rôle attribué aux femmes, amenée à engendrer de futurs citoyens républicains. Il serait bon que ces mères soient un tant soit peu formées à cette tâche. Autant se préoccuper en outre de les retirer du seul enseignement qu'elles recevaient, l'enseignement religieux.
Mais par manque de moyens et sous pression de la guerre et d'autres désordres, l'éducation primaire des filles disparaît à partir de 1798. Et alors, quand on fait le bilan de l'époque, on ne peut qu'être amer.
Non, enfin... Les femmes sont quand même devenues citoyennes, oui, mais de rang inférieur. Et elles deviennent définitivement des mineures légales avec le Code civil napoléonien en 1804. Il accorde la prépondérance aux chefs de famille. Il institutionnalise l'infériorité de la femme qui doit obéissance à son mari. Les héroïnes de l'époque sont vite oubliées, en particulier Olympe de Gouges, dont la mémoire est restée occultée jusqu'à nos jours. Le dénigrement, la dépréciation, l'aversion à l'égard des femmes renforcent la misogynie. La femme combattante de 1793 est une abomination. Et contrairement à ce que laissent croire aujourd'hui les portraits officiels de la Marianne républicaine, qui apparaissent d'ailleurs au XIXe siècle, pendant la Révolution, le port du bonnet phrygien a été interdit aux femmes parce que réservé aux hommes.
Eh bien, dites donc, on voit que royaliste ou républicaine, être mère est la seule voie offerte aux femmes.
Eh oui. Donc, ce procédé d'invisibilisation est toujours à l'œuvre. Il atteint des sommets avec des supercheries comme le suffrage universel.
Universel, rappelons quand même que universel, ça voudrait dire tout le monde, femmes et hommes. Or, il n'y a que les hommes qui votent.
Bien sûr. Ou encore la polysémie du mot « homme ».
Alors là, Noémie, je te coupe. Rappelons-nous la chronique sur le langage inclusif. On sait très bien que le mot « homme », soi-disant neutre, n'est pas neutre.
Eh oui.
Les femmes ont bien bousculé l'ordre masculin. Et le retour du bâton est cinglant. Nous verrons dans notre prochaine chronique le sort des femmes au XIXe siècle.
Courage!
Courage, courage, chères auditrices, chers auditeurs.
Les femmes au fil de l'histoire.
Une coproduction Marche mondiale des femmes et Radio BLV.